L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh bien bonjour, bonsoir, tout le temps de dire bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les auditeurs et les auditrices de Pluriel Gay. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission. Alors j'ai à mes côtés, comme d'habitude, Laurence.
Bonsoir tout le monde. Voilà.
Alors Laurence, en ce moment, ton micro, j'ai pris soin à ce qu'il soit réglé correctement.
C'est nickel. C'est bon.
Ah ouais, super. Donc Bernard est aux commandes. Voilà, il est là, toujours présent.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous et bonsoir à nos invités.
Voilà, alors nos invités, on va commencer par honneur aux dames, par ma sœur.
Bonsoir les enfants. Oui, bonsoir. C'est sœur Lola Rosa qui cause dans le poste, encore voilà. Une fois. Que la paix et la joie des sœurs vous accompagnent, mes chers amis.
Alors Lola Rosa du couvent des Traboules,
oui.
Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec Jean-Yves. Jean-Yves, alors, Jean-Yves, c'est un cas d'espèce parce que, comment dire, il a toutes les casquettes, ou beaucoup de casquettes, donc on ne sait pas si on a SOS homophobie, si on a les sœurs, si on a le jardin d'été, c'est vrai.
Bonsoir. Tu veux que je fasse la liste?
Non. Il est multifonctionnel.
Voilà.
C'est polyvalent, on dirait certains.
Oui. Voilà. Et polyglotte.
C'est vrai aussi.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faudra surveiller notre anglais si on parle anglais, parce qu'il est parfaitement bilingue, Jean-Yves.
Très bien.
Donc, du coup, Jean-Yves, merci d'être revenu à l'émission. Ouais, on donnera des petites nouvelles aussi du centre, peut-être.
Oui, tout à fait.
Hein, voilà.
Tant qu'à faire.
Tant qu'à faire. Alors, Fabrice, nous sommes heureux de t'accueillir ce soir pour la seconde fois, puisque la deuxième, on va dire, parce qu'on est pessimiste quand on dit la seconde fois. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas une troisième.
Tu sais ? Ah bon ? Ah
oui,
non, je ne savais pas.
Non, seconde, il n'y a pas de troisième normalement.
Mais qu'est-ce que voilà.
Ça s'arrête à deux alors.
Voilà, non, ce sera la deuxième fois.
Tout ce que j'apprends à tes côtés, Gérald.
Ouais. Il y en aura d'autres. Ah, Bernard voulait parler, non ?
Non, non, il s'est juste penché brusquement.
Ah oui. Ouais, il m'inquiète parfois, tu comprends ? J'ai l'impression, des fois, il va se jeter contre la vitre.
Mais c'est la passion de la radio, ouais. Tu vois.
Donc Fabrice, tu es déjà venu à l'émission l'année dernière, à peu près à la même époque, d'ailleurs.
C'est ça, pendant mon mandat de Mister Laser France 2016.
Voilà.
Allez.
Qui s'est écoulé et fini, vu qu'on est en 2017.
Oui, tu as en ta présence, Laurence, l'ex-monsieur cuir, France. Je vais dire en français, parce que c'est plus facile. Hein, ce leader, après on prononce masque, leader, Mister Leader, non, leader.
Vous avez déjà fait la blague la dernière fois,
Mister Leader. On l'avait déjà fait. Mais oui, mais bon, il faut bien prononcer. Comment on prononce leader, Jean-Yves ?
Leather,
voilà.
Leather. Avec la langue qui sort de la bouche.
Voilà, c'est ça. Leather. Coincé entre les deux dents.
Voilà.
C'est ça.
Donc,
entre deux dents, hein, pas.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Donc, qui était venu à ce titre-là l'an dernier. Et qui revient alors peut-être, pour d'autres émissions aussi, qu'on a convenu que tu pouvais venir chroniquer éventuellement à l'émission, quand tu voulais d'ailleurs. Hein,
tout le monde. D'accord, bah écoute, je la prends, c'est cool.
Il suffit de sonner un petit peu, et puis il n'y a pas de problème. Et puis on va commencer tout de suite donc, par le couvent des Traboules. Donc,
bonsoir.
Ma chère sœur.
Bonsoir.
Elle est rayée ce soir.
Oui. Donc, que puis-je pour vous les.
Eh bien, ma chère sœur, justement, vous vint régulièrement à l'émission. Vous êtes venu.
Oui, alors moi j'aime bien venir ici. Oui. On est comme chez soi, c'est bien.
Et nous,
mais par contre, ça manque de thé. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Oui, mais il y a le jardin des thés.
Oui, c'est vrai.
Excellente réponse.
C'est vrai.
Qui est un peu là par la présence de Jean-Yves, puisqu'on sait.
Non, mais je dis ça simplement parce que j'aimerais bien être accueilli avec une tasse de thé, ça serait très bien.
Ah oui. Ben, il faudra y penser.
C'est exigeant.
La prochaine fois.
Il faudra y penser, c'est vrai.
Un petit thermos avec du thé, une petite tasse en porcelaine de Limoges. Je dis ça, mais je dis rien à les gens. Bon, tu voulais me poser une question.
Oui, je pensais déjà que les sœurs avaient fait vœu d'abnégation. C'est pas le cas.
Non.
Donc. Chère sœur, oui. Parce qu'il y a de l'actualité, vous étiez venu l'an dernier, la saison dernière, on va dire.
Oui.
Et puis, parce qu'il y avait de l'actualité du couvent, et puis là, il y a encore de l'actualité du couvent,
oui.
Puisqu'il y a la semaine de ressourcement qui va bientôt commencer.
Ah, mais oui, bien sûr. Nous organisons donc un ressourcement à destination des personnes séropositives. Et tu n'es pas sans savoir, Gérald, que c'est une aventure que les sœurs ont menée depuis 1993.
Oui.
Voilà, donc on continue, l'aventure continue, voilà. Nous accueillons donc cette année une douzaine de séropositives et séropositifs, des hétéros comme des homos. Nous serons accueillis dans la très 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 belle maison proche de Carpentras qui s'appelle la Maison de Vie, qui est une maison qui a été construite et organisée et qui est financée par la fondation Fight AIDS Monaco, dont la présidente est Stéphanie de Monaco. Voilà. Cette maison, elle est à cette maison est à destination des séropositifs. C'est la seule en Europe. Mmh. Et il y a deux autres maisons comme celle-ci, d'après ce que j'ai compris, aux États-Unis. Voilà. Une qui est plutôt consacrée à l'insertion professionnelle des séropositifs. Et une autre qui est plutôt consacrée sur vivre et vieillir avec le VIH. C'est ce qui est un petit peu l'objectif de la maison de Carpentras. Voilà.
Mais du coup, dans ces maisons, il n'y a pas uniquement les sœurs accompagnées de personnes séropositives qui y vont. Il peut y avoir d'autres associations qui y
sont. Bien sûr. Donc cette maison est ouverte toute l'année. Elle organise elle-même des séjours, des séjours qui sont longs, puisque... Avec eux, un séjour, c'est 15 jours, 10 ou 15 jours, quelque chose comme ça. Donc, ils auront en général entre 1 et 2 séjours par mois. Mmh. Et quand il y a des créneaux de libre, des associations qui se chargent d'accompagner les séropos peuvent demander à venir dans cette maison parce qu'elle est vraiment magnifique, en fait. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une demande, puisque nous cherchions un lieu... à la mesure de notre budget, voyez-vous, qui est assez réduit quand même. Nous avons rencontré le directeur, Didier, qui est une personne extraordinaire, très à l'écoute, et qui travaille dans le milieu des séropositifs depuis très 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 longtemps. Et il nous a proposé un créneau pour venir donc organiser notre ressourcement chez eux. Voilà. D'accord. Et donc ce ressourcement commence donc la semaine prochaine. Nous accueillons les personnes à partir du 18 octobre jusqu'au 23.
Voilà. D'accord.
Et donc, quand c'est évidemment une association qui, on va dire, utilise ses locaux, c'est nous qui faisons les animations, etc. Voilà. Donc, on a prévu les ateliers, les intervenants, etc., etc.
L'événement est organisé donc par le couvent des Traboules.
Oui, en collaboration avec le couvent d'Oc, puisque c'est un projet que nous avions déjà depuis un an ou deux, de reprendre cette initiative des sœurs. Et en nous associant avec le couvent d'Oc, en fait, nous avions l'intention... de faire plutôt une communication auprès des séropositifs de la région Languedoc-Roussillon, puisque maintenant elle va jusqu'à Toulouse, et tout en gardant peut-être aussi des contacts avec la région Provence. Et en ce qui nous concerne, nous avions envie aussi de permettre à des séropositifs d'Auvergne-Rhône-Alpes d'abord de connaître cette maison, s'ils n'y sont pas encore allés, et pour ceux qui y sont déjà allés, d'avoir le plaisir d'y retourner et d'y séjourner. Voilà.
Alors comment est-ce que ça se déroule ? Ça rentre dans le détail, mais oui. Il y a des ateliers déjà.
Oui. Alors en fait, on axe les ateliers autour du bien-être, puisque on sait que cette pathologie, pour certaines personnes, elle va occasionner des désagréments, des douleurs, etc. Bon, voilà, donc on essaie d'axer des ateliers là-dessus. On a quelqu'un qui va venir, qui est un spécialiste de la sophrologie, donc qui peut aider certaines personnes à gérer un certain nombre de douleurs, voilà. On est aussi sur de la convivialité, bien évidemment. On est bien sûr sur de la parole de séropositif, puisque pour certains, de plus en plus... les lieux de parole et de rencontre entre séropositifs ont disparu, ils se sont un peu effrités, ils sont peut-être moins efficients ou moins fréquentés, peut-être par les séropos eux-mêmes. Donc c'est toujours l'occasion, quand on est entre nous, de parler de son rapport au médecin, de son rapport au traitement, de faire le point des avancées sur les nouvelles molécules qui arrivent, de voir un petit peu comment chacun se débrouille un peu au quotidien avec sa pathologie. Voilà.
Donc c'est une façon aussi d'être convivial, je veux dire, de faire rencontrer les gens aussi.
Oui. Dans ces moments-là, il y a énormément d'échanges entre les séropos sur comment chacun se débrouille avec sa pathologie, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie sentimentale, dans sa vie sexuelle aussi. Parce que c'est l'occasion de faire le point, de vider son sac, en quelque sorte. Et puis peut-être pour certains, de se ressourcer, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, de se reconstruire.
C'est le nom d'ailleurs.
Voilà,
de ressourcement.
Et de repartir, on va dire, avec, recharger, tu vois, réconforter aussi. On accueille, c'est vrai, des personnes, j'ai envie de dire, qui sont en fragilité. En fragilité à différents niveaux. Ça peut être aussi des fragilités sociales, économiques, des fragilités sentimentales aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes qui, quelquefois, n'ont pas retrouvé de partenaire depuis pas mal de temps, ou n'en trouvent pas, tout simplement, parce qu'ils sont en repos, etc. Enfin, bon, tu vois, on travaille un peu sur toutes ces questions-là. Voilà. Tout ça dans la joie et la bonne humeur avec les sœurs.
Les sœurs sont donc présentes.
Oh bah oui, toute la journée, on est sur le pont.
Sur le qui-vive.
Oui. Non, mais c'est extra quand même. Parce que j'ai envie de dire, on reçoit énormément des personnes et du groupe. Et il y a une véritable, j'ai envie de dire, climat de bienveillance dans ce cadre-là. Parce qu'il ne. Si je peux me permettre juste un tout petit mot. Pour certains séropos que nous accueillons dans nos ressourcements, quelquefois, il y a aussi la problématique de l'homophobie qui se conjugue, on va dire, dans la mesure où certaines personnes, j'ai des souvenirs comme ça quand je te parle, je vois des personnes qui, par exemple, n'avaient pas dit qu'ils étaient homosexuels dans leur famille, tu vois, par exemple, ou à leur lieu sur leur lieu de travail. Et donc, tu vois, ça fait plusieurs choses à gérer, tu vois, en plus de la séropositivité. Donc voilà, il faut mettre un petit peu de joie dans tout ça.
Il y a une sorte de double coming out aussi, d'avouer son homosexualité, enfin d'avouer ça, évidemment, de dire son homosexualité, de dire sa séropositivité, c'est comme une deuxième affaire auprès de ses proches, tout ça.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, à ce propos-là, mon grand, j'ai envie de dire que cette année, nous allons essayer d'initier quelque chose. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais on va essayer. Dans le cadre du 1er décembre, donc le dimanche 3 décembre, voilà, au soir, nous allons essayer d'organiser un apéro séro-solidaire en milieu ouvert, c'est-à-dire on va le faire dans un bar qui s'appelle le Live Station, qui est un bar qui est un peu, comment dire, très très ouvert. Sur
le meilleur bar du monde.
Bon, je ne sais pas, mais en tous les cas, avec une équipe très très ouverte, ouais. Très oui. Chaleureuse.
D'ailleurs, les venus à l'émission.
Oui, voilà. Voilà, bien sûr.
Oui, ils sont très sympas. Et ce projet d'avoir une soirée, un apéro un peu séro-solidaire, affiché comme séro-solidaire, où toutes les personnes séropositives, leurs amis, leurs familles, et toutes les personnes qui ont, on va dire, envie de soutenir la cause des séropos, pourront se retrouver, boire un coup, dans la joie, la bonne humeur et la visibilité. Voilà.
Alors, c'est intéressant, ma sœur, que vous parliez des événements du 1er décembre, parce que je voulais en parler un petit peu, mais on aura l'occasion de le refaire d'ici là, évidemment.
Oui, j'espère bien.
Puisque cette année, donc, l'association Contact coordonne, donc elle est coordinateur d'un événement qui va se dérouler au Palais de la Mutualité.
Oui, et c'est magnifique. Oui,
voilà.
Oui. Merci Contact. Et en plus, ils le font dans la joie et la bonne humeur, c'est super.
Voilà. Et en fait, de nombreuses associations sont conviées à participer. Je sais que les sœurs du couvent en font partie.
Oui. Hein.
Également, on a reçu
on va essayer.
Qui est venu il n'y a pas longtemps, qui sera là-bas aussi. Donc, on reçoit pas mal de gens, finalement, qui seront impliqués dans cet événement. Et Contact même doit venir nous voir bientôt. Voilà, donc, c'était une petite aparté. Ma sœur, est-ce que vous aviez des choses à rajouter? Alors, rappelez-nous, ça se passe déjà à Carpentras.
À côté
donc.
De Carpentras, ouais. Voilà, dans une...
Très belle région.
Oui.
Il y a du vin là-bas, non?
Oh, oui. Décoller, je pense qu'on va bien boire.
Et du bon, en plus.
Oui, dans une maison qui s'appelle donc la Maison de Vie, ouais. Et qui est gérée par la Fondation Fight AIDS Monaco.
D'accord. Très bien. C'est du 18 au 23 octobre.
Du 18 au 23.
Voilà. Mais là, le carnet de bord est plein. Hein.
Oui. Donc, par contre, pour l'année prochaine, parce que nous avons l'intention de renégocier un créneau pour organiser un nouveau séjour l'année prochaine, et voire même, nous aimerions organiser ce que nos sœurs parisiennes ont appelé des jouvences. Donc, c'est plutôt un grand week-end. Parce que nous avons fait le constat que peut-être certaines personnes avaient du mal à se libérer 5 jours d'affilée et qu'il faudrait peut-être un format plus court, trois jours, tu vois, quand on travaille, déjà, c'est pas mal pour se libérer 3 jours.
Oui.
Voilà. Mmh. Et on aimerait peut-être aussi faire un travail avec un certain nombre d'associations lyonnaises avec lesquelles nous allons prendre des contacts. Je pensais notamment à l'ALS, tu vois, on va essayer de se rapprocher d'eux pour faire peut-être un travail plus précisément auprès des jeunes séropos. Mmh. Voilà.
D'accord. Il m'énerve, mon téléphone, là, il vibre.
Bah alors, Gérald...
Mon Dieu, ça vibre.
Oui. Donc, du coup, c'est du 18 au 23 octobre. Pour l'instant, c'est tout booké, tout pris.
Oui.
Mais l'année prochaine, il y aura...
Oui, pour 2008, je reviendrai de toute façon.
Oh, oui, bien avant, j'espère.
Oui.
Voilà. Puis il y aura du thé, peut-être, la prochaine
fois. Ah, j'aimerais bien. Et si tu fais une émission de Noël, alors, j'aimerais bien être...
Ah, bah, si tu veux, ouais,
j'adore
tiens,
ça. Oui, bien
t'aimes
sûr.
Bien Noël oh. Vous, non. Aimez bien Noël.
Non, j'aime pas forcément Noël, mais j'aimerais bien faire une émission de Noël, justement, pour dire qu'on n'aime pas Noël.
D'accord.
Qu'on a le droit. Non, mais c'est aussi une période où il y a beaucoup de solitude.
Oui.
Et c'est un peu pour ça que j'avais envie de faire cette émission-là.
Eh ben,
on y pensera.
Le rendez-vous est pris, voilà, on y pensera. Donc, vous savez, ma sœur, à chaque fois que le couvent des Traboules vient ici, nous passons.
La petite chanson. Oh oui.
Sister Sledge.
Envoyez la sauce.
Eh bien, de retour sur Pluriel Gay, merci de nous retrouver. Merci les sœurs.
Merci beaucoup.
J'allais dire toujours Maria Lola Rosa, mais on peut écourter, je crois.
Oh, bah Lola.
Sœur Lola.
Lola, ça va très bien. Merci.
Jean-Yves est toujours avec nous.
Oui.
Et Fabrice également.
Oui, je suis là.
Il est là.
Fabrice.
Mais bien sûr.
Et Bernard, dans son local, voilà. Alors, du coup, on parlait un petit peu, on évoquait donc le sujet de la séropositivité. Hors antenne, on parlait aussi de la visibilité de la des séropositives, des personnes séropositives. Et moi, justement, je voulais aborder un sujet, parce que demain, au centre LGBT, tu ne me contrediras pas, cher Jean-Yves, il y a une soirée débat, la première, je crois, qui a lieu au centre LGBT.
Tout à fait, oui.
Concernant la PrEP.
Ouais.
Alors, c'est une soirée débat où vont intervenir des médecins, notamment.
Mmh. Et des spécialistes
et aussi des utilisateurs de la PrEP. Mmh. Or, la PrEP, ma chère Laurence, tu n'es pas sans savoir que cela crée
ça fait débat.
Ça fait débat. Tout le monde n'est pas pour, tout le monde n'est pas contre. Alors, moi, je pense qu'il y en a qui sont pour, donc que, bon, toujours comme d'habitude, hein, ça fait polémique. Alors, les pour ont des arguments, les contre aussi, évidemment. Mais j'aimerais bien que quelqu'un nous explique exactement ce qu'est la PrEP. Qui se sent ? Lola Rosa, sentez-vous ? Vous sentez-vous ? Ou Jean-Yves ou Fabrice ?
Ah, moi, je peux. Hein. C'est, ouais. Ça, c'est facile à expliquer, en fait. La PrEP,
il y en a qui ne connaissent pas encore.
Mais oui, vas-y, mon grand.
Mm-hmm. Voilà, en fait, la PrEP, c'est la Truvada. Donc, c'est un des médicaments qui est utilisé dans le cadre de la trithérapie. La grande différence, c'est qu'en fait, il est utilisé... en mode préventif, les personnes prennent le médicament avant un rapport sexuel et ça réduit presque à zéro le risque de contamination si le partenaire est séropositif.
Voilà, donc la PrEP, c'est prophylaxie, pré-exposition, quelque chose comme
oui,
ça.
C'est, vrai.
Enfin,
ouais. Ouais.
C'est une méthode prophylactique.
Ouais.
C'est-à-dire que les personnes qui prennent le médicament ne sont pas séropositifs.
C'est ça.
C'est préventivement qu'ils le prennent.
Ce qui fait partie du débat.
Ce qui fait partie du débat.
Et il y a deux modes de prise en charge. Il y a un mode en continu, où en fait on prend le médicament tous les jours, et un mode en alternance, où on prend le médicament uniquement en cas de risque. Ça consiste à prendre deux cachets 2 heures avant le rapport à risque, et après pendant 72 heures, un cachet à 24 heures d'intervalle.
Mmh. C'est contraignant.
Il y a une autre critique aussi, qui émerge. C'est l'idée que si on prend cette molécule, donc cet antirétroviral, on risque peut-être de l'épuiser, cette molécule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le virus risque d'être peut-être résistant.
La personne, ouais.
Mais aujourd'hui, on a des réserves de molécules. Hein. Donc c'est pas...
Je sais qu'il y a un travail qui est fait aussi sur d'autres molécules.
Oui. Et de toute façon, probablement que Truvada sera remplacé d'ici quelques années par d'autres molécules.
Pour avoir
le même effet, de toute façon.
En générique, apparemment, il y avait des problèmes. C'est Ed qui en avait parlé. Notamment, Truvada ne voulait pas abandonner, évidemment, la poule aux œufs d'or, on dira.
Alors, par contre, là, il y a un truc qui est génial, c'est qu'au mois de juillet, là, le générique du Truvada est sorti et c'est quand même vachement moins cher, quoi, par contre. Ça veut dire qu'y compris pour les finances publiques, c'est quand même vachement bien.
Mais ça, il y a le générique maintenant, sur le marché parce que
il est à 100 euros et quelques, je crois, 100,90 euros, quelque chose comme ça, au lieu de 399 quand même.
Alors parmi toutes les critiques,
les 399 là du pas générique, en fait c'est pour c'est des doses à combien de temps? C'est juste pour une période?
Pour un mois.
Pour un mois, d'accord.
Oui, okay. Oui. Toujours des prescriptions mensuelles.
D'accord.
Alors, les critiques qui sont faites à la PrEP, bon, il y en a plusieurs. Alors, il y a la prise en alternance, donc évidemment, tout le monde se dit, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va baiser, finalement, c'est pas toujours évident. Bon. Il y a ensuite ceux qui disent, il y avait le coût du médicament, mais alors je ne sais pas s'il est remboursé par la Sécurité sociale.
Si, pour l'instant, c'est pris en charge, oui.
Alors, ça aussi, voilà, oui, heureusement. Mais ça aussi,
c'est. Enfin, c'est pas dans tous les pays.
Mais
nous, nous avons la chance d'avoir.
Oui. T'es pris en charge
des associations et une ministre qui ont réfléchi sur cette question-là, et la question de la prise en charge est...
Donc, sur le plan sanitaire, tu évoquais éventuellement la résistance, aussi le vieillissement avec cette molécule. Parce que ça, on n'a pas assez de recul.
Ça, c'est vrai.
Voilà. Sur les trithérapies, on a un peu plus de recul aux États-Unis, où il y a eu des études de fait sur des sexagénaires, notamment, qui sont sous ces trithérapies depuis très longtemps. Et bon, les études, on ne va pas en parler ici, ce n'est pas le sujet, mais ne sont pas très optimistes.
Non.
Faut dire ça. Ensuite, il y a sur le plan, philosophique, on dira, il y en a pour qui ça pose vraiment un problème. Et j'ai souvent constaté, en tout cas, que c'était... enfin, j'ai eu l'impression que c'est un problème de génération. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis assez choqué par le principe. J'étais au début, en tout cas, assez choqué. Je continue de me renseigner parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais pourquoi ? Parce que moi, ce qui me choque un petit peu, ce qui choque beaucoup, c'est le fait que la pilule anti-sida, puisque c'est un peu comme ça qu'on on l'appelle chez les jeunes, eh ben, ça veut dire qu'on n'a plus besoin du préso, on n'a plus besoin du préservatif. Il y a eu aussi des campagnes de communication qui, heureusement, ont été quand même arrêtées, mais à une époque, comme Aide, qui faisait une campagne en disant « marre du préso, point d'interrogation, la PrEP ». Et ça, c'était un mauvais message qui était envoyé donc à la population. Et moi, j'ai discuté encore il n'y a pas très longtemps avec mon pharmacien. Il me dit « il y a des jeunes qui viennent et qui me demandent ça ». Ils me disent « on n'a plus besoin du préso maintenant, est-ce qu'on peut avoir… » Alors, il me dit « déjà, il faut aller chez le médecin, vous n'êtes pas à la pharmacie comme ça, il faut vous le faire prescrire ». Il me dit « après, normalement, il y a un suivi, hein, ça ne se passe pas comme ça ». Il explique, il me dit « le mieux pour l'instant, c'est les préservatifs ». Mais il constate de plus en plus la question se pose chez les jeunes. Et on sait que la prévalence de la séropositivité, en tout cas, reste importante chez les jeunes de 18-24 ans. Mmh. Et en plus, chez ce qu'on appelle maintenant les HSH, homo, bi, et toutes ces personnes.
Alors, il fallait l'apprendre. Hein. Je suis désolé, mais alors les HSH...
Mais lui, il n'aime pas les HSH. Voilà, on va dire pour ceux qui ont des rapports homosexuels, voilà, assumés ou pas.
Des gays refoulés ou des bi qui s'ignorent. Quoi, mais...
voilà. Bref, en tout cas... Ça, c'est aussi une population dans laquelle le virus reste important, alors qu'elle diminue dans d'autres catégories à risque. Mmh. Alors, beaucoup de gens ont tendance à dire ça aussi, c'est un peu à cause de la PrEP. Il y a aussi un autre facteur important sur le plan sanitaire, c'est que se débarrasser du préservatif par l'intermédiaire de la PrEP, c'est s'exposer aux maladies, ce qu'on appelait autrefois les maladies vénériennes, à mon époque. Maintenant, il faut dire IST. Et c'est vrai que depuis... Alors, la recrudescence des IST chez les asséchases, excuse-moi, c'est pour faire court, et existe depuis l'arrivée de la PrEP, évidemment, notamment la syphilis, etc., qui sont en recrudescence, les maladies vénériennes, et les IST en recrudescence. Et beaucoup disent que la PrEP ne va absolument pas endiguer le problème, au contraire, puisque...
Non, la PrEP n'a aucun rapport avec les IST.
Voilà, parce qu'ils n'ont aucun rapport avec IST, parce que la PrEP, c'est on n'a plus besoin du préservatif. C'est surtout ça.
C'est là qu'il y a une vraie ambiguïté, hein, parce qu'effectivement, le discours était très clairement de dire la PrEP permet aux HSH qui veulent baiser sans capote de le faire en toute sécurité, mais effectivement, la PrEP ne s'occupe que du sida, ni la syphilis, ni des chlamydia, etc. etc. D'où, là, effectivement, il y a un vrai problème de communication sur qu'est-ce qu'on cherche, quels sont les objectifs.
Je crois que ce qui a changé avec la PrEP surtout, c'est que maintenant, la prévention, elle est multiple. C'est-à-dire qu'avant, pour se protéger du VIH, il y avait le préservatif, point barre. Maintenant, on dit pour se protéger du VIH, eh ben, ça dépend de ton mode de vie. Une personne, par exemple, qui est dans un couple sérodifférent, leur moyen de se protéger du VIH, c'est juste le fait que le mec qui est séropositif prenne un traitement depuis plusieurs années et qu'ils n'aient pas de contracter une IST ni l'un ni l'autre. Quelqu'un qui a une sexualité célibataire, c'est de mettre des préservatifs. Quelqu'un qui pratique un peu le sexe un peu extrême, etc., et qui ne met pas déjà de préservatif, du coup, il va aller vers la PrEP. Je crois que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a le choix entre différents modes de protection. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir le choix en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on a envie de vivre comme vie, quoi.
Le mot chouette, je ne sais pas trop, c'est qu'il y a une vraie... Je suis d'accord sur le principe, évidemment, de toute façon, les résultats sont là. Après, moi, c'est sur le discours, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi, Gérald. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on a complètement déchargé la responsabilité de la fin de l'épidémie sur les PD et pas du tout sur les institutions publiques. Maintenant, on a un discours, les fameux 90-90-90, un petit peu vomitif, où on dit « Ouais, d'ici 2030, si tous les PD s'y mettent un peu, la PrEP,
exactement.
etc. »
Et lorsqu'il y a eu l'essai avant la mise en place de la PrEP, c'est l'essai qui s'appelait Hyper-Gay. Rien que le nom, déjà.
Oui, oui. Mmh.
Moi,
c'est une manière de dire, c'est notre responsabilité maintenant d'être, justement, de bien se comporter, de prendre le petit médicament quand il faut. De manière à endiguer la maladie qui reste quand même un problème de santé publique. C'est aux institutions publiques à prendre leurs responsabilités, à faire ce qu'il faut pour endiguer l'épidémie. C'est pas à nous à le faire, hein. Je veux dire, le sida, c'est pas notre faute s'il est là. Donc,
Oui, mais c'est ça, c'est encore une fois stigmatiser les gays en disant qu'il n'y a que les gays qui ont le sida.
Quoi. Pire que ça, c'est les gays qui ont encore des pratiques déviantes.
Oui, c'est ça.
Là,
ouais.
Quand tu disais, ouais. C'est les gays qui, justement, le chemsex, qui vont baiser n'importe où, qui n'ont pas envie de capote. Je veux dire, s'ils commençaient par produire des capotes qui sont vraiment plus fines, plus confortables, mieux lubrifiées, etc., etc., ben, peut-être que les gens n'iraient pas chez le pharmacien pour demander la PrEP. De leur dire, ils n'ont pas compris que la PrEP, c'est une chimiothérapie quand même. Dire, ils préfèrent se prendre des pilules de chimio plutôt que de prendre un préservatif, de dire là oui, il y a un vrai problème quand même.
Moi j'aurais une position un peu médiane, mon cher enfant.
Expliquez-nous votre position, ma chère sœur. Bah,
à la fois, je partage vraiment ta vision sur le fait que...
Fabrice.
Je partage vraiment ta vision en disant, ben oui, c'est un outil supplémentaire qui nous est donné et qui s'insère dans des processus de prévention. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit prendre ce type de médicaments pour envisager sa vie sexuelle.
Bah, c'est pas le discours d'ailleurs.
Voilà.
Puis la PrEP, c'est quand même quelque chose qui est suivi. Là, on en parle comme
absolument.
Si on pouvait le récupérer
non, mais
en
ça
pharmacie,
se fait pas comme ça,
mais c'est suivi à l'hôpital.
Je ne sais
pas si maintenant c'est possible avec le généraliste ou pas.
Si, maintenant.
Voilà. Et tous les deux mois, je crois, on a un rendez-vous, on fait un bilan avec toutes les IST.
Oui.
Et d'ailleurs, on dit qu'il y a une recrudescence des IST avec la PrEP, mais c'est qu'il y a une recrudescence. Du diagnostic des IST aussi, parce que maintenant les mecs sont suivis et ils passent toute la batterie de tests tous les deux mois, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est pas non plus un truc qui est lâché comme ça ou qu'on trouve dans les distributeurs. Quoi.
Non. Et c'est pour ça que je dis que pourquoi se priver d'un outil supplémentaire quand celui-ci il arrive et que, comme tu disais, Jean-Yves, on a quand même des chiffres. Ça a quand même fait baisser un certain nombre de contamination aux États-Unis, et on sait qu'en France, bah, ça va avoir les mêmes effets. Et on pourrait rajouter aussi, peut-être, alors c'est des calculs de boutiquiers, hein, mais je pense que si ça permet dans la population de réduire le coût d'une trithérapie avec le Truvada et le générique, en fait, bah, je pense qu'à long terme, dans la population... sur les coûts de santé, on va probablement s'y retrouver. Et je pense aussi que cette question du Truvada donné en prévention, ça peut concerner certaines populations qui sont éloignées des schémas de prévention. Je pense peut-être à certains travailleurs ou travailleuses du sexe dans certains pays. Je pense.
C'est tant que eux, ils ont accès aux médicaments.
Oui, de
toute façon, oui, a priori, là.
Le problème. C'était déjà problème.
Oui,
avec
mais
il faut
militer pour ça, en fait. Et si on milite pour ça, ça veut dire qu'on va pouvoir offrir aussi à certaines populations une possibilité de faire chuter les taux de contamination. Il ne faut pas voir que notre petite chapelle à nous ici.
C'est pas vous de contredire, mais il y a toujours le problème de l'accès par rapport à des populations qui sont déjà très marginalisées. Hein. On parlait des HSH tout à l'heure. Bah, les jeunes de banlieue qui n'ont pas accès à la formation, qui n'ont pas forcément accès aux soins, les CGID, etc., etc., qui ne sont pas forcément à côté de chez eux, bah, là, typiquement, ce n'est pas eux qui vont prendre la PrEP. Hein. Donc, il y a un petit peu cette idée que la PrEP, c'est bien, mais on revient toujours sur la prévention du gay, blanc, bourgeois, qui vit en ville, etc., etc. Ça, c'est un autre problème qui n'est pas forcément vraiment abordé.
Oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a quand même dans certaines communautés des tabous, mais des tabous sur le sexe en règle générale. Il n'y a pas que
ça. Oui, les deux sont liés, bien sûr.
Là, après, la question, c'est comment nous, dans la société, une société laïque, on fait pour permettre à certaines personnes de dépasser les tabous. C'est une vraie question. Hein. Mais ceci dit, je rejoindrai ce que tu disais tout à l'heure sur la question, parce que j'en parlais justement cet après-midi, à une petite réunion qu'on avait avec les copains de l'ENIPS, là, et puis d'autres associations sur la qualité des préservatifs, en fait. Et c'est vrai que nous, ce que nous constatons, quand on fait notre travail de sœur, en tous les cas, hein, c'est que bon, quand on commence à parler un peu comme ça de sexualité, de préservatifs, machin, tout ça, il est évident que la qualité des préservatifs ces 10 dernières années a beaucoup fait pour dénigrer le préservatif. Les matériels que les gars trouvaient dans les établissements, Bah, il était de mauvaise qualité, trop petit, pas assez lubrifié, le paquet difficile à ouvrir.
Pas agréable, enfin, bon, faut bref, le dire, hein.
Vraiment un outil pas très agréable. Gratuit, oui. Et je remercie toutes les organisations et les associations qui ont fait en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre dans les établissements. Mais il n'en reste pas moins que y a eu une sorte de glissement de la qualité de ce produit-là ces dernières années. Et que je pense que pour beaucoup, ça a posé des questions de l'utiliser, voire même, parce que certains mecs n'osent pas le dire, ça pose des problèmes érectiles, quoi. Voilà.
Oui,
quand
oui,
tu
oui.
mets 15 jours à ouvrir le paquet, c'est sûr que voilà, quoi.
À enfiler le préservatif.
Non, mais il faut se dire que dans certaines conditions, on peut avoir les mains mouillées, on peut, tu vois...
Non, jamais. Voyons.
Il y a des conditions techniques qui font que c'est pas toujours facile de l'utiliser, voilà. Donc ça a pas contribué non plus à revaloriser le préservatif, quoi. Voilà.
Ah, bon,
et ça, c'est une question qui se pose.
Bah, qu'il faudrait poser.
Parce que les remontées des utilisateurs, des établissements ont fait que là on est arrivé à un point où quoi.
Oui. Alors certains évoquaient aussi la gratuité complète des préservatifs.
Oui. Oui. Même si quand on aborde cette question-là, les fournisseurs et les fabricants ne veulent absolument pas entendre la question de du produit qui est moins moins efficace, voilà. Ou moins
après,
sympathique
en pharmacie, dans un distributeur, faut quand même payer le
bien sûr.
En supermarché on en trouve facilement, mais c'est vrai qu'il faut payer,
c'est à dire qu'on rembourse le trou derrière, on rembourse pas les préservatifs, voilà. On dit qu'il y a un problème, quoi.
Ceci dit, avec l'association Fris, j'ai eu l'occasion de découvrir des préservatifs extraordinaires avec des applicateurs. Non, mais je veux dire, quand tu vois ce genre de préservatif, tu te dis, mais pourquoi c'est pas ça qu'on donne à tout le monde, quoi.
Ouais, non, mais il a raison. Hein, c'est...
Bon, là, il est un tout petit peu plus cher, mais...
Il y avait aussi le préservatif, on pouvait utiliser le préservatif féminin.
Le Fémidon, bien sûr. Oui. Très élevé, beaucoup plus lubrifié.
Oui.
Qui n'est pas en latex, donc ça veut dire que la question de l'allergie, pour ceux qui sont allergiques. Non, il est vraiment génial. Hein. Et puis... Il est de taille raisonnable, donc il est... il est autobus, il va à tout le monde.
Très bien. Alors, ce que nous allons faire, nous allons passer une petite chanson encore. Alors, petit Bernard. Puis on reviendra ensuite à toi, Fabrice, parce que je voulais évoquer un autre aspect de la sexualité. Puis on reviendra à toi. La seule fille, la peau, elle va s'enfuir au bout d'un moment avec toutes ces histoires PD. Donc, on parlera.
Mais non, mais alors justement, après les IST, ça concerne aussi les lesbiennes. Je crois qu'il y a un gros tabou du préservatif féminin chez les lesbiennes. Il y a encore beaucoup de lesbiennes, même aujourd'hui, qui se disent que les lesbiennes ne peuvent pas choper d'IST. Il faut arrêter les filles.
C'est vrai. Oui. C'est tout à fait vrai.
C'est...
Donc on va quand même écouter une chanson, on reviendra là-dessus, on parlera avec toi du chemsex, Fabrice, on abordera le sujet, on y reviendra aussi plus tard dans une autre émission qui est prévue, mais on en parlera déjà, on abordera le sujet ce soir. Ce sera l'occasion de nos invités de donner leur avis aussi s'ils en ont un. Bernardo, toi qui pratiques le chemsex, tu pourras aussi en parler. Et donc de nous envoyer une chanson, je ne sais pas laquelle, dis-nous, Old Love, j'avais prévu plusieurs trucs. Old Love, je vais être musclé. C'est un message, je vais être musclé.
Je vais être musclé pour pouvoir frimer sur la plage pendant l'été. Pour pouvoir m'inscrire dans un club de beach volley. Pour épater les filles et puis les faire rêver. Je veux être musclé, je veux être musclé. Je veux être musclé, assez pour porter des haltères toute la journée. Comme ça je serai encore mille fois plus musclé. Et je pourrai porter plein de machines à laver. Oh, je veux être musclé, je veux être musclé. Mais quand vient l'heure du déjeuner, tout ça j'ai déjà oublié. Je reprends plusieurs fois des frites, je mange comme 4 plutôt que 8. Et quand arrive le dessert, je voudrais prendre l'assiette toute entière. Et pour que je puisse l'apporter, faudrait que je sois plus musclé. Je veux être musclé pour pouvoir faire de la boxe ou du karaté. Pour avoir toujours raison sans même me parler. Être le Jean-Claude Van Damme du débat d'idées. Je veux être musclé, je veux être musclé. Mais quand arrive l'heure du goûter, tout ça j'ai déjà oublié. Je mange des pains au chocolat comme avant d'hiberner. Si moi je prends une tartine taille mammouth,
4 ou 5 autres, c'est pour la route. Puis une fois que mon ventre va exploser, bah, je me rappelle, je voulais être musclé. Je veux être musclé, avoir les abdos, les pectos, tout dessiné. Pour pouvoir épouser une star de la télé.
Ah ouais, trop beau.
Pour pouvoir chanter un jour comme Bernard Minet. Je veux être musclé, je veux être musclé. Quand vient enfin le dîner, tout ça me fait bien rigoler. Je remplis à fond mon assiette de saucisson, de tartiflette. Je finis le plateau de fromage. Quand soudain me vient une image, et là j'ai envie de pleurer parce que je suis arrivé musclé. Vas-y, va être musclé. Je veux être musclé. Je veux être musclé. Je veux être musclé. Oh, si vous l'en prie, je veux avoir tout plein de muscles qui s'empilent comme ça jusqu'au plafond, comme un gros bodybuilder de 3m50. Et je serai trop bien. Je veux être musclé.
Pluriel gay.
Oui, mais le côté sanitaire.
Eh bien, nous voici de retour, on est en pleine discussion sur
les discussions passionnantes.
Les femmes homosexuelles peuvent-elles se transmettre notamment des maladies? Et oui, mais d'ailleurs, il y avait eu il y a plusieurs brochures qui ont paru déjà à ce sujet.
Mais oui.
Au sujet de la sexualité entre femmes et des risques.
Mais ça c'est encore un préjugé sur les femmes. N'ont pas vraiment de vie sexuelle, tu vois. Les femmes ne s'envoient pas en l'air comme les hommes, les femmes n'ont pas autant de plaisir, tu vois, elles se caressent, elles se brossent les cheveux d'abord, tu vois.
Voilà, toujours il y a des collages qui flottent.
Avec Basilis.
C'est ça, il y a des petits violons, il y a des petits violons derrière et tout.
Ah, c'est doux, c'est délicat.
Ah oui, en plus.
Non, arrêtez. Et voilà, les femmes, c'est pareil, elles baisent, et voilà, c'est tout.
Femmes, ça baise.
Bah, bien sûr.
J'aurais appris ça ce soir.
2017, les gars.
Et la vie d'Adèle pour ça.
Oui, la vie d'Adèle, oui. Alors, donc là, justement, on va continuer dans le registre de la sexualité. Encore une fois, alors je ne sais pas si les femmes sont concernées par lequel sexe. En tout cas, les gays.
Ah, je ne sais pas ça.
Apparemment, c'est associé aux gays, en tout cas, sexualité homosexuelle, on va dire, lequel sexe. Mais pas que, peut-être. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la communauté gay, masculine.
Ouais, ça fait 2-3 ans déjà qu'on entend pas mal parler. Il commence à y avoir des articles dedans. Il y a eu on en parlait tout à l'heure, il y a eu un article dans Libé aussi.
Cet été,
donc ça devient un peu grand public. Moi, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste de quoi que ce soit, juste observateur, comme un mec qui a une sexualité depuis 15 ans. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai remarqué que... c'était vraiment hyper développé, quoi. Et que ça devenait presque compliqué de trouver un partenaire sexuel sans chemsex. Si c'était dans des pratiques un peu spécifiques, si c'était dans du fils, si c'était dans des choses comme ça, dans des milieux un peu BDSM, systématiquement, on vient de proposer du chemsex et systématiquement, c'est relié à l'acte sexuel. Et puis autour de moi, j'ai rencontré plein de mecs, des copains qui sont vraiment tombés là-dedans. Et ça m'inquiète, quoi. Ça m'interroge, ça me pose des questions. Déjà il y a les chiffres. En 2016, il y a 56% des cas ayant contracté le VIH qui l'ont fait en lien en consommation de drogue à des fins sexuelles. Donc c'est énorme. Plus de la moitié des nouvelles séroconversions sont dans un cadre de consommation de drogue. Et puis il y a les substances en elles-mêmes qu'on achète sur le net, qu'on ne peut pas forcément savoir ce qu'on achète, qui sont hyper accessibles, qui sont pas chères. Et que ça devient un truc comme ça hyper banal. On discutait tout à l'heure en arrivant, c'est pas nouveau le fait que les gays utilisent des substances, des drogues, de l'alcool pour faire du sexe, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une généralisation et un truc qui devient banal et non dit, quoi.
Le chemsex est donc du sexe sous l'emprise de la
drogue. C'est ça, sous produit, notamment avec des nouvelles molécules qui existent, qui s'appellent 3MMC, 4MEC, qui sont des dérivés de la méphédrine, et qui sont sous forme de poudre qu'on achète sur internet, sur des sites, qui se sniffent ou qui s'injectent par veine, et ça s'appelle du slam à ce moment-là.
D'accord. Donc c'est vraiment d'une drogue particulière, c'est pas...
C'est une drogue dédiée au sexe, ouais.
Ça fait des centaines d'années que des gens s'envoient en l'air en étant défoncés, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais là c'est vraiment le...
Bah, nous on avait le poppers, hein,
ça. Oui, ils existent encore.
Ils étaient des petits joueurs.
Et puis ça se mélange, quoi, c'est-à-dire qu'après tu mélanges la 3MMC avec du GHB, avec du... avec de l'alcool, avec du cannabis, et ça vient... Les gens deviennent multi-consommateurs, polytoxicomanes, quoi.
Oui, avec des risques quand même pour la santé qui me paraissent quand même importants.
Mais oui, les AOD et autres overdoses, c'est surtout ça. Hein. C'est effectivement dès qu'on parle de mélange, des gens qui n'ont pas forcément la même résistance que d'autres personnes, qui prennent des surdoses, qui le font dans des mauvaises conditions, on sait qu'effectivement, là, le nombre de morts est assez impressionnant quand même. Hein.
Et puis le truc, c'est que je pense qu'on est tous assez inégaux devant l'addiction et devant les drogues de manière générale. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont réussir à consommer comme ça une fois de temps en temps, et puis il y en a d'autres qui vont tomber assez vite dedans. Donc l'important, c'est déjà de se poser des questions de son propre rapport à la consommation, son propre rapport à la sexualité aussi. Moi, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai l'impression, c'est que ça change un rapport à l'autre, un rapport à soi, un rapport à son corps. Quand on est dans une espèce de marathon comme ça du sexe, parce que du coup, ces séances de chemsex, c'est pour faire aussi des sessions qui durent 24 heures, 48 heures, 72 heures, parce que du coup, on est dopé, on est sous produit et on est dans une espèce de surenchère comme ça, de quête du plaisir sans fin.
On a une de ces putains de tricks.
C'est une putain de trick. Pas forcément d'ailleurs, ça fait bander mou.
72 heures de trick.
C'est ça. Faut y aller. Ouais.
C'est dangereux.
Et du coup, ça pose la question du rapport à la rencontre, du rapport à l'autre là-dedans. Et moi, de ce que j'en ai vu, parce que j'ai eu l'occasion d'essayer 2-3 fois, c'est qu'au bout d'un moment, t'es avec les mecs et ils sont même plus avec toi, ils sont sur leur téléphone en train d'essayer un autre plan cul pour le ramener. Et du coup, t'es même plus en contact avec l'autre. Le mec, il est sur son téléphone, il est en train d'essayer de qu'est-ce qui va pouvoir l'exciter après, quoi. C'est-à-dire que t'es même plus dans le moment présent de l'acte sexuel, de la rencontre avec l'individu. T'es juste dans une espèce de surenchère de qu'est-ce qui va pouvoir faire monter ton excitation, qu'est-ce qui va pouvoir te faire monter le curseur de. Du plaisir, quoi.
Et je crois que c'est une question de curseur. C'est le principe de la drogue, hein. Beaucoup de drogués, justement, ils sont sur le vrai manque du drogué, c'est pas la drogue elle-même, c'est le toute la montée d'adrénaline, d'aller chercher la drogue, de savoir comment il va pouvoir la trouver, à quel prix, etc. Là, je pense qu'il y a vraiment un parallèle entre les deux.
Et surtout un parallèle, j'ai l'impression, excuse-moi, je te coupe, avec la société de consommation.
Oui, bah évidemment.
Là, en fond, c'est la surconsommation, c'est à outrance, quoi.
Et du coup, ça fait un glissement entre est-ce qu'on est là pour baiser ou est-ce qu'on est là pour se défoncer. Il y a un glissement du.
Ils sont là pour consommer, en fait. C'est là que tu as complètement raison. C'est la consommation, en fait. Surconsommation, d'ailleurs, on peut continuer. Là, pour moi, en fait, ça me rappelle beaucoup ce qui s'était passé. C'était au début des années 90 avec les raves, avec ces jeunes qui partaient comme ça dans la cambrousse pour danser. C'est exactement comme tu as dit, c'était dansé 24 heures, 48 heures, 72 heures. C'était l'ecstasy à l'époque, avec pareil une hécatombe. Je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Là, on est sur le chemsex. Il faut bien voir, à mon avis, en tout cas, on est sur des problématiques multiples. Hein. C'est à la fois des problématiques effectivement liées. À la communauté gay, effectivement, vrai manque de confiance en nous, en notre corps, nos performances. On essaie toujours de prouver ce qu'on veut à travers des relations multiples, des relations de performance. Mais après, effectivement, des rapports vraiment liés à la consommation de drogue. Effectivement, des consommations, des problèmes qu'on a toujours rencontrés depuis les années 60, l'apparition du LSD, toutes ces drogues psychédéliques. Je suis un peu partagé puisque évidemment je vais pas nier l'ampleur du phénomène. Là, je pense vraiment surtout aux accidents. Hein, c'est le nombre de personnes qui y restent. C'est-à-dire là où effectivement c'est plus que préoccupant. Il faut vraiment faire quelque chose. Après, c'est toujours moi le risque, c'est de tomber sur un discours vraiment médical. En disant, ouais, voilà, c'est des marginaux qui font ça parce qu'ils sont mal dans leur peau, etc., etc. Moi, je rappelle toujours les aspects plus systémiques, plus structurels, de dire, on est pour moi sur des vrais problèmes d'homophobie intériorisée, des gens, justement, qui essayent d'oublier, qui essayent de jouir d'un plaisir sans en avoir conscience, littéralement, on est là-dessus. On est aussi sur toutes les ramifications, encore une fois, les personnes qui ont besoin de se prouver, beaucoup de choses, qui ont besoin d'oublier. C'était Sœur Lola Rosa tout à l'heure qui parlait justement aussi juste du stress hein, que les gens vivent au quotidien, le travail, la multiplication des contraintes décuplent ces besoins de s'évader à travers le sexe. Là où tu as raison, par contre, c'est sur l'inégalité des corps. On va dire, y a des personnes, moi j'en ai connu, hein, des personnes qui ont traversé toutes les époques, toutes les drogues, aucun problème. Et puis, de dire.
Gérald est là pour témoigner d'ailleurs.
Alors, il est silencieux jusque-là, voilà, bien vous.
J'ai survécu à tout.
Ouais, et après, bah, pour les personnes qui n'ont pas de bol, et là, c'est un peu ça, c'est de dire, bah, on sait qu'il suffit d'une dose de trop. Je pensais également ce dont on parlait tout à l'heure avec les mélanges, les gens qui vont mélanger poppers, Viagra, toutes les drogues, etc. Ouais. On sait qu'il y a des mélanges qu'il ne faut vraiment pas faire. Donc,
et puis, les gens sont inégaux au niveau physique, mais aussi psychique.
Oui, mais
la prise voilà, de consommation peut développer, par exemple, des gens qui ont un terrain schizoïde, comme on dit. Il y a des personnes qui deviennent schizophrènes suite à la prise parfois même l'absorption d'herbes, tout simplement.
Il faut le dire aussi, il y a des gens qui peuvent enchaîner les chemsex et qui ne vont pas devenir de véritables accros. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont un développement psychologique qui leur permet de ne pas ressentir le besoin. Il y a une personne, en une seule fois, c'est bon, elle est partie, quoi.
Ce serait intéressant d'avoir l'avis de ces gens-là, d'ailleurs. Ce serait intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est consommateur et puis qui le vit bien et qui dit que c'est cool.
Bernard, apporte-nous ton témoignage.
Je vais juste te dire juste un truc pour rappeler, AIDS part quand même de fléaux sanitaires, en parlant du chemsex. Et il met à disposition un numéro d'appel d'urgence pour les chemsexeurs, qui est le 01 77 93 97 77. Et donc ça permet au moins d'en parler. Ça permet aussi d'avoir accès à des laboratoires pour analyser les produits qu'on a, parce que c'est des trucs qu'on a sur Internet. Et si on se pose la question de qu'est-ce qu'on a, comment c'est dosé, etc., ça permet de faire analyser ces produits. Et donc voilà, c'est bien de le rappeler, de se renseigner.
Oui, c'est très bien que tu dises ça, parce que c'est vrai que je pense que pour beaucoup, quand ils commandent ça sur Internet, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont recevoir.
C'est ça.
Tu vois la question. Et comme le prix est très attractif, c'est ce qui fait que tout le monde peut en avoir, quoi, en fait, et assez rapidement, en fait. Mais j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, Fabrice.
Oui. Ah. Tu m'appelles Fabrice maintenant. Ça y est,
on va vous laisser. Team.
Oui. Ah. Non, mais quand tu disais que c'est difficile aujourd'hui de trouver sur les réseaux des plans cul simples.
Mais ouais,
les mecs, ils te proposent toujours c'est avec ça, avec produits, etc., etc. Mais c'est aussi parce que je pense que beaucoup dans la communauté, comme on le disait tout à l'heure, on a toujours un peu flirté avec cette question du sexe performance, en fait. Et alors là, c'en est une qui, on va dire, n'est pas probablement pas la dernière, hein, parce qu'une fois que ça sera terminé ce truc-là, il y aura probablement autre chose.
Oui.
Pour moi, et la question, c'est comment aujourd'hui on peut avoir un discours qui n'est pas moralisant vis-à-vis des personnes qui utilisent ce type de produit, parce que, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Yves, la raison pour laquelle on va utiliser ces produits, elle est multifactorielle. À la fois, c'est peut-être un sentiment d'appartenance à un groupe. Je suis dans un groupe de PD, je suis sur tel type de réseau de rencontres, je vois que tout le monde en prend, ben j'en prends. Tu vois, parce que sinon, t'es has-been, tu vois. Voilà. Un certain type de pratique aussi. C'est l'image qu'on se fait de la pratique, en dire, avec cette pratique-là, il faut qu'il y ait ça. Voilà.
Parce que sinon. Un premier fils, ça passe mieux peut-être quand on est défoncé, non.
Ouais, mais oui, mais.
Avant de se faire des
fils, c'est une question de préparation.
Probablement.
Sur le fist, c'est vraiment, ça a envahi l'univers fist. Il n'y a plus que ça, quoi. Tous les 90% des mecs qui pratiquent le fist, c'est avec
le côté extrême, c'est normal. On sait que nous, gays, on a toujours aimé, on a toujours flirté avec un sexe dangereux. C'était les années 70, c'était justement aller dans les parcs, on avait encore les flics au cul. C'était pas toléré, c'est vrai que c'est pas du tout pour cautionner, mais...
Oui. Après, je crois qu'à un moment donné, si tu veux, il y a aussi la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir un plan cul s'éclater sans produit? Est-ce que ça, on peut poser cette question dans la communauté, tu vois? Et qu'à un moment donné, peut-être, si on est invité à une partouze ou je ne sais quoi, on dit « moi, je ne consomme pas ». Est-ce que c'est suffisamment courageux de dire ça? Est-ce que ça peut faire tache d'huile? Je sais pas, mais voilà quoi. C'est là, il faut
poser ces questions-là.
En tous les cas, c'est multifactoriel. Si ça arrive aujourd'hui, c'est pas que parce que les gens, comme tu le dis, refoulent leur homosexualité. Ça peut être une raison, mais il y en a plein d'autres. Et moi, je vois surtout des raisons sociétales.
Bien. Alors, donc, l'émission a touché à sa fin et je voudrais qu'on dise un petit
dommage.
Mot. Oui, une heure passe vite en votre
compagnie.
Ça passe
vite, une heure.
Oh, Gérald, on aime tellement être avec toi.
Eh bien, vous reviendrez, promis, sans problème. Vous êtes invité permanent à l'émission. Donc, Laurence...
Je vais vous laisser vraiment.
Non, non, justement, on va sortir des violons. On va parler de thématiques femmes. Ouais. Donc, du coup, en fait, c'est un événement. Oui, c'est un événement, justement, qui va avoir lieu au Live Station aussi.
Au Live Station, bien.
Yeah. Voilà. Oui, oui, oui. Et ça, c'est en novembre. Hein. L'apéro solidaire sera en décembre, mais là, c'est en novembre.
Le 1er novembre.
Le 1er novembre.
Alors, attends, je prends mon agenda.
Oui. Notez, ma sœur.
C'est un mercredi.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Et d'ici là, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, parce qu'il va y avoir d'autres émissions. Mais je voulais quand même déjà commencer à en parler vite fait. En fait, Laurence, tu fais partie de la PGL.
Oui, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens.
Voilà. Et du coup, la PGL organise des événements, ou organiser des événements, en lien peut-être, je suppose, avec un débat à venir... La PMA.
Oui,
tu supposes bien.
Voilà. Oui.
Et du coup, donc là, ce 1er novembre, il va y avoir des intervenants au Live Station. Alors, ça sera un brunch.
Voilà. En fait, c'est parti d'un constat très simple. Quand mon épouse a dû, parce qu'elle a dû adopter, du coup, ma fille, parce que même si on est marié dans ce pays, du coup, il y a encore l'étape de l'adoption voilà, qu'on est obligé de faire. On s'est rendu compte, on s'est retrouvé un peu démunis parce qu'il n'y avait aucune info sur le net, on ne trouvait personne qui pouvait répondre à nos questions, etc. Même certains professionnels. Et en gros, on a rencontré une personne qui est membre de la PGL, qui nous a bien aidés, et on la remercie d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou, il y a sûrement des tas de couples... qui ont plein de questions et qui n'osent pas les demander à droite à gauche à Pierre-Paul Jacques. Donc je me suis dit qu'on allait organiser 4 événements. Au départ, c'est 4 événements. Donc le premier, ce sera le 1er novembre. Et donc je suis allée voir Luana, donc du Live Station, parce que je sais que voilà, elle est déjà. Elle organise plein d'événements pour les LGBT, en soutien aux LGBT. Et du coup, on s'est mis d'accord pour le 1er novembre organiser un brunch. Donc à partir de midi. Il y aurait des activités pour les petits. Là, il y aura activités maquillage et dessin. Il y a une maquilleuse professionnelle qui va venir, qui va s'occuper d'eux. Il y aura un manger organisé par la chef du Live Station. Il y a plancha classique, plancha végétarienne. Et surtout, il y aura une intervenante, Agathe. Qui est avocate spécialisée en droit de la famille.
La Rosa est déjà en panne de raison.
Dès que j'entends végétarienne. Moi, je suis végétarienne pour la famille.
Et du coup, Agathe, donc, qui est venue dans l'émission il y a deux semaines, je crois. Donc, avocate spécialisée en droit de la famille, qui sera la spécialiste, la professionnelle du jour, et à qui bah, voilà, tous ceux qui viendront pourront poser leurs questions. Et il y aura aussi du coup, des membres de la PGL qui seront là aussi. C'est à la fois répondre aux questions et c'est aussi un échange d'expériences. Voilà.
D'accord.
Donc tout ça dans la joie et la bonne humeur.
Et la bonne humeur.
Voilà. Moi, je m'inscris à l'atelier maquillage.
Et bien on en reparlera de toute façon.
Donc voilà, ouais.
On mais aura l'occasion de revenir
de toute façon, tu vas mettre les infos sur le site et sur la page Facebook parce qu'il faut réserver. Hein. Il faut appeler le Live Station ou envoyer un petit mail pour réserver.
D'accord.
Combien de personnes vous voulez, quelle sorte de plancha, etc. etc.
Ouais, je mettrai tout, effectivement, sur la page Facebook, le site plurielgay.fr, on aura toutes les infos.
Et vous faites des rencontres, je crois, la PGL, une fois par mois
C'est ça, oui, au centre LGBTI, oui. Donc, ben là, on a eu une première réunion de rentrée il y a 3 semaines, à peu près.
Ouais.
Du coup, l'agenda n'a pas encore été clairement fixé, mais normalement, c'est un jeudi. C'est un jeudi, une fois par mois, ouais. Du coup, les gens peuvent venir, tout le monde peut venir.
Pour un premier contact,
pour des questions, pour échanger, pour partager. Voilà, il y a toujours au moins 2 membres de la PGL qui sont là pour répondre aux questions. Ouais. Okay.
Très bien. Bon, ben, on aura l'occasion d'en parler. On diffusera l'info. Je rappelle aussi, donc, demain, au centre LGBTI, toujours. Donc, ça sera la soirée d'information donc, sur la PrEP dont nous avons parlé. Pour tous ceux qui voudront en savoir un peu plus, la PrEP, c'est quoi? Donc, avec des spécialistes, intervenants spécialisés et aussi des utilisateurs de la PrEP. Les sœurs du couvent des Traboules organisent donc... avec le couvent d'Oc à Carpentras, la semaine de ressourcement.
Oui.
C'est déjà complet, alors n'essayez pas de venir.
Non.
L'année prochaine, on remet ça.
Oui.
Et c'est à Carpentras, donc du 18 au 23 octobre. Très bien. Eh bien, nous remercions. Je remercie Laurent, je remercie
merci à toi, merci à tout le monde.
Oui, oui, merci Gérard.
Bonsoir.
De se merci Fabrice. Bernardo.
Merci Bernard.
Merci Bernard.
Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui. À bientôt, les
amis. Une petite musique de fin.
Une petite musique de fin, oui.
Oui, c'était quoi ça?
C'est moi.
Ah, ben on peut faire une musique de fin.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.